France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Alors que l'armée israélienne continue de bombarder Gaza, les protestations européennes se font plus fortes et Londres suspend ses négociations commerciales avec Israël. Nous ferons le point dans un instant avec Thibault Lefèvre à Jérusalem et Fabien Cazot à Bruxelles. Alors que les États-Unis appellent d'autres pays à suivre leur exemple et à sortir de l'OMS, les membres de l'Organisation mondiale de la santé adoptent un accord historique sur la lutte contre les pandémies. De bonnes intentions qu'il faut encore traduire en lois concrètes, réagit l'ONG DNDi. Quand des membres du gouvernement issus de LR déclarent que la fin du macronisme est pour bientôt, les macronistes montent au créneau. Analyse politique de Rosalie Lafarge. Et puis, après un pic en 2023, il y a eu moins d'agressions d'élus l'an dernier, mais les premiers visés sont les maires, qui représentent 64% des victimes. Nous retrouverons Mélanie Kuzelevitch au ministère de l'Intérieur. Le mouvement de reconnaissance d'un État de Palestine, tel qu'envisagé par la France, le Royaume-Uni et le Canada, ne s'arrêtera pas, affirme François Bayrou devant l'Assemblée nationale. En réponse à la députée LFI Mathilde Panot, le Premier ministre répète que la situation qui a été créée à Gaza est une situation humainement et humanitairement inacceptable. Les pressions internationales semblent pour l'instant laisser de marbre le Premier ministre israélien. Hier, Benjamin Netanyahou a expliqué que son armée allait prendre le contrôle de Gaza. Mais pour l'instant, malgré les bombardements qui se poursuivent, on en est loin. Les précisions de Thibault Lefèvre à Jérusalem.
L'essentiel des troupes d'infanterie des 5 divisions mobilisées restent sur leur position et l'aviation et l'artillerie sont pour le moment à pied d'œuvre. Gaza est un tout petit territoire et chaque impact de bombe ou de missile fait trembler ce qu'il reste des murs. Loaï Nasser a été déplacé il y a 2 jours au centre de l'enclave à Deir el-Bala.
On entend en permanence des bombardements autour de nous, entre le sud de Deir el-Bala et Khan Younes. Et la nuit dernière, ils ont ciblé beaucoup de maisons ici. L'armée israélienne continue de frapper du ciel. Ils préparent une invasion au sol.
Même conviction du côté de l'État hébreu et de l'analyste militaire Kobi Mikael de l'Institut national de la sécurité.
L'armée israélienne est à la moitié de l'opération. On continue à intensifier les frappes. On pousse la population à partir vers le sud, ce qui permettra aux soldats d'être plus libres pour agir. Nous avons l'intention d'occuper ce territoire et de démanteler le Hamas en tant que puissance souveraine.
Ça, c'est le plan. Du point de vue de l'armée, reste la politique et la diplomatie. Les canaux sont toujours ouverts. Israël maintient pour le moment son équipe de négociateurs à Doha.
La situation au Proche-Orient est au cœur des discussions aujourd'hui à Bruxelles, où se tient un Conseil européen Affaires étrangères sur les sujets de défense. Plusieurs États membres ont évoqué la remise en cause des relations diplomatiques entre l'Union européenne et Israël, ce qui serait une première, Fabien Cazot.
Dès le début de la réunion ce matin, la question des relations avec Israël s'est imposée en tête des sujets de discussion. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaya Kallas, confirme que le réexamen de l'accord d'association avec Israël est bien à l'ordre du jour.
Le ministre néerlandais a mis sur la table la proposition de se pencher sur l'article 2 de l'accord d'association avec Israël. Je ne saurais prédire ce qui en ressortira, mais je pense que ce qui est important, et nous pensons tous la même chose, c'est que l'aide humanitaire arrive à Gaza le plus vite possible.
Une référence directe à l'article 2 de l'accord avec Israël, qui stipule que les relations avec l'Union européenne reposent sur le respect des droits de l'homme. La Suède plaide de son côté pour des sanctions individuelles additionnelles contre certains ministres israéliens, tandis que le gouvernement britannique annonce convoquer l'ambassadrice israélienne à Londres et suspendre ses négociations commerciales en cours avec l'État hébreu.
Fabien Cazot à Bruxelles. Après cette annonce de Londres, le ministère israélien des Affaires étrangères répond que les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie, qui est, je cite, « de défendre son existence et sa sécurité contre des ennemis qui cherchent à le détruire ». Au lendemain d'un entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a abouti à aucune promesse de cesser le feu en Ukraine, l'Union européenne et le Royaume-Uni annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie sans attendre les États-Unis. Ces sanctions viseront la flotte fantôme et des sociétés financières utilisées par Moscou pour contourner les sanctions occidentales. C'est un accord historique qui a été adopté ce matin par l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé. Aboutissement de plus de 3 ans de négociations entre les 194 États membres de l'OMS. Cet accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies entend combler les lacunes mises en évidence lors de la crise du Covid-19. L'objectif est de mieux protéger le monde contre les menaces à venir et de garantir un accès équitable aux produits de santé en cas de pandémie. Pour l'ONG DNDi, qui milite pour le développement de médicaments pour certaines maladies tropicales négligées, c'est une étape plus qu'un aboutissement. Écoutez son directeur exécutif, le docteur Luis Pizarro.
Nous, ce qu'on attend, c'est la traduction opérationnelle de ce traité. Tous les États membres qui ont voté ce matin ont maintenant le devoir de rentrer chez eux et réfléchir comment vont traduire en loi concrète toutes les bonnes intentions qui sont affichées dans ce traité. Il y a cette notion de ne pas attendre la prochaine pandémie pour agir et d'anticiper des mesures qu'on sait déjà nécessaires. Comment la recherche sur les nouveaux vaccins, traitements doit être mise en place dès maintenant. Mais aussi, il y a des indications de comment la communauté internationale peut mieux partager les connaissances de ces recherches et peut ensuite produire et distribuer de manière beaucoup plus équitable que ce le fut avec la Covid, les vaccins et les traitements qu'on va produire. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent qui ne servira à rien et qui va disparaître. Investir, c'est bien de mettre de l'argent sur la table pour récolter les fruits plus tard et éviter les milliards qui ont été gaspillés au moment de la Covid et qui auraient pu être prévenus si on avait été bien préparés.
Propos recueillis par Jeanne Stemmar. L'OMC est sur la corde raide, les États-Unis ayant décidé de se retirer de l'organisation, la privant de budgets très conséquents. Aujourd'hui, le ministre américain de la Santé va même plus loin. Robert Kennedy Jr. encourage ses homologues du monde entier à suivre l'exemple américain. Le torchon brûle de nouveau entre les LR et les macronistes. La semaine dernière, Bruno Retailleau, en campagne pour la présidence de LR, s'est posé en adversaire du « en même temps » et a jugé que le macronisme ne survivrait pas à Emmanuel Macron. Après le ministre de l'Intérieur, c'est aujourd'hui la porte-parole du gouvernement, la LR Sophie Prima, qui déclare sur CNews « le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent ». On se doute, Rosalie Lafarge, que ces déclarations ont de quoi agacer sérieusement les troupes du chef de l'État.
Tout de suite, Gabriel Attal a pris son téléphone, c'est ce qu'il a expliqué à ses députés ce matin. Le patron du groupe Ensemble a d'abord eu François Bayrou, le Premier ministre, puis Sophie Prima, donc elle aurait évoqué une maladresse.
Je suppose que c'était une maladresse.
C'est de toute évidence une maladresse.
Oui, bien évidemment, tout le monde fait des maladresses.
Sauf que les maladresses s'enchaînent et ça commence à bien faire pour l'ancien ministre macroniste Hervé Berville.
Je ne crois pas que l'ivresse de la victoire devrait monter au nez de responsables politiques. Ces membres du gouvernement ont été nommés par le président de la République. Et donc je crois qu'au-delà d'avoir un minimum de décence, il faut un minimum de mémoire.
Prisca Thévenot, elle aussi ancienne ministre, ne dit pas autre chose.
Un peu d'humilité, un peu de responsabilité. Si le macronisme meurt d'ici quelques mois, Sophie Prima n'est plus au gouvernement.
Ils sont remontés, les macronistes, surtout l'aile gauche qui ne retient plus les coups, rappelle les scores dérisoires des LR aux dernières élections nationales, souligne que les rangs de la droite sont 2 fois moins fournis que les leurs au Palais Bourbon et que surtout, s'ils veulent avancer seuls, ils sont libres, le député Pierre-Alexandre Anglade.
Il y a une offensive brutale de la droite conservatrice, réactionnaire, qui veut à tout prix abattre ce qu'a été le dépassement politique. Mais la vérité aussi, c'est que ce n'est pas parce que Bruno Retailleau a fait un bon score dans sa primaire qu'il va devenir président de la République demain. Et donc à un moment donné, il faut être cohérent. Soit on est ministre d'Emmanuel Macron et on respecte ce qui a été bâti ces dernières années, soit on n'est pas d'accord et on s'en va.
Il n'en fallait pas plus pour relancer les doutes nombreux sur la possibilité d'une union de la droite et du centre pour la prochaine présidentielle, pourtant indispensable pour l'ex-porte-parole du gouvernement Maud Bréjean.
Si on joue la division, il n'y aura que des gens au cimetière à la fin.
De quoi promettre une bonne ambiance à Matignon tout à l'heure où les députés macronistes, c'était prévu avant, sont attendus pour une soirée de travail par le chef du gouvernement.
Rosalie Lafarge, à l'Assemblée nationale. À quel renoncement la France est-elle prête pour rester attractive? Au sommet de Choose France hier à Versailles, devant un parterre d'investisseurs étrangers, Emmanuel Macron a déclaré vouloir la suppression pure et simple de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises au nom de la bureaucratie. Ce texte, je le rappelle, impose aux entreprises des règles en matière de respect de l'environnement et de droits humains dans toute la chaîne de production. On comprend la colère des ONG, elles sont plus d'une dizaine, Chloé Geoffroy, à interpeller le chef de l'État et à lui demander de respecter ses engagements.
Clara Alibert, chargée de plaidoyer pour l'ONG CCFD Terres Solidaires, estime que le chef de l'État envoie un signal très négatif. Derrière une directive européenne qui peut sembler technique, se cache avant tout des vies humaines et une planète à préserver, rappelle la jeune femme.
Ce geste, en fait, c'est balayer le sort de millions de personnes qui permettent la production, la mise à disposition de services sur le marché européen, et c'est des produits, des services dont on sait qu'ils peuvent engendrer des violations de droits humains, des atteintes à l'environnement. En fin d'année, on aura la COP30 à Belém au Brésil, et on peut être sûr que ce même président fera un discours pour dire à quel point l'Europe, la France est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a aucune cohérence et surtout, il n'y a aucune action.
Sur le devoir de vigilance des multinationales, la France a pourtant été pionnière en Europe. En 2017, le pays promulgue même une loi sur le sujet.
Emmanuel Macron était ministre de l'économie et à cette même époque, il n'a jamais été convaincu par le devoir de vigilance. Donc, il y avait quand même des éléments, des indices.
Le texte adopté il y a un an par l'UE est actuellement en négociation. La Commission européenne souhaite le simplifier, voire le reporter de 2027 à 2028. Clara Alibert espère que les eurodéputés qui auront leur mot à dire feront tout pour éviter sa suppression.
La vraie question, c'est quelle économie on veut pour l'Europe? Est-ce qu'on veut un nivellement par le bas ou est-ce qu'on veut continuer de se regarder dans un miroir et se dire, bah, nous, en tant que socle européen, en aucun cas, on ne viendra sacrifier cela sur une pseudo-compétitivité pour s'aligner avec les standards américains ou chinois.
La chargée de plaidoyer attend aussi une réaction rapide du ministère de l'économie.
Chloé Geffroy, les pluies orageuses intenses qui ont frappé le Var aujourd'hui ont fait au moins 3 morts, 2 au Lavandou et 1 à Vidauban dans la plaine des morts. Au Lavandou, il s'agit d'un couple d'octogénaires qui ont été emportés avec leur véhicule par un torrent. Une enquête a été ouverte. L'an dernier, 855 personnes sans domicile fixe sont mortes dans la rue. Un chiffre en hausse par rapport à 2023, selon le décompte du collectif des morts de la rue, qui se charge de ce recensement. Il note qu'en 2024, 6 personnes de plus de 80 ans sont mortes dans la rue, en raison des expulsions de plus en plus nombreuses, du jamais vu, selon Adèle Lenormand, coordinatrice du collectif.
C'est quelque chose qui alerte de plus en plus nos partenaires. Donc le nombre de personnes qui vont être expulsées et qui sont assez âgées et qui n'ont jamais eu d'expérience de la rue ou du fait d'être en hébergement et qui peuvent se retrouver particulièrement démunies face à ces situations. Comme le met bien en valeur la Fondation pour le logement des défavorisés, il y a une augmentation du nombre de personnes sans abri en France significative aussi. Ça induit aussi une hausse de la mortalité des personnes qui sont sans abri. On suit les préconisations des autres associations qui travaillent avec les personnes vivantes. C'est d'avoir un logement pérenne pour toutes et tous. Et ensuite, évidemment, voilà, il y a d'autres demandes qui vont être affiliées. Donc, d'avoir un accès aux soins qui est garanti pour tout le monde de la même manière, puisque on voit que c'est pas toujours le cas, que les personnes sont pas toujours très bien reçues ou alors, voilà, peuvent avoir un accès aux soins qui est plus dégradé. Mais c'est vrai que le cœur du plaidoyer du collectif, c'est vraiment sur l'accès au logement.
Propos recueillis par Sophie Volatier, un hommage aux morts de la rue se déroule en ce moment au parc de Belleville à Paris. Les agressions d'élus ont baissé de 9,3% en 2024. C'est une première sur les 3 dernières années. L'an dernier, 2500 atteintes ont tout de même été recensées par le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Il s'agit de menaces, d'outrages, de violences physiques ou de dégradations. Et le ministère de l'Intérieur publie aujourd'hui ces chiffres. Vous êtes à l'hôtel de Beauvau, Mélanie Kuzelevitch, bonsoir.
Bonsoir.
Les maires sont les principales victimes et concentrent 64% des atteintes, Mélanie.
Oui, et malgré la légère baisse, les faits de violence sont toujours élevés. Menaces, insultes, dégradation des logements ou violences physiques, c'est inacceptable, assène la ministre des Ruralités, Françoise Gatel.
Je le dis froidement, sérieusement, en pesant mes mots, agresser un élu, c'est agresser la République. Il faut le dire, il faut le rappeler, il faut agir en conséquence.
Et le gouvernement veut montrer qu'il s'engage pour les élus. 5 millions d'euros alloués au plan sécurité élus, tolérance zéro pour la violence. Une garantie complémentaire de protection pour les élus. Le déploiement d'un bouton d'appel relié à un smartphone pour se signaler. Un paquet d'annonces à l'approche des élections municipales en 2026. Car comme l'a constaté le CALAE, le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, lors d'échéances nationales, les tensions augmentent dans la société et se répercutent sur les élus. C'est pourquoi Le gouvernement veut prévenir. Le ministre François-Noël Buffet promet de diffuser un pack nouvel élu, une sorte de kit qui permettra aux élus de savoir comment réagir quand on est victime d'une agression, avec des contacts, un QR code qui renvoie vers des fiches détaillées. Le tout sera remis après l'élection. Un moyen de convaincre donc les élus à se représenter ou d'encourager les citoyens à s'engager, François-Noël Buffet.
Mesdames et messieurs les élus municipaux, vous le savez tous, nous en sommes tous intimement convaincus. Ce sont les élus de la République qui sont en première ligne, qui affrontent tous les jours plus de difficultés, qui, faut-il encore le rappeler, à travers leur police municipale, sont au contact des personnalités les plus violentes. Faut-il redire, une fois de plus, qu'à Mulhouse, il s'agit de policiers municipaux et d'ASVP qui ont arrêté le criminel. Et c'est de plus en plus souvent que les choses se passent de cette manière-là.
Malgré la volonté affichée, compliqué de savoir si ce sera suffisant. Le chiffre est éloquent. Selon le ministre François-Noël Buffet, aujourd'hui, un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2026.
Mélanie Kuzilevitch en direct du ministère de l'Intérieur. La Cour des comptes juge sévèrement le niveau scolaire des élèves du primaire. Selon la dernière étude Teams, en mathématiques, nos élèves de CM1 arrivent en dernière position dans l'Union européenne. Et cela malgré une hausse des dépenses de 6 milliards d'euros depuis 10 ans dans l'éducation. Au-delà de ce niveau des élèves jugé donc inacceptable, la Cour constate des inégalités qui s'aggravent, qu'il s'agisse d'inégalités sociales, territoriales ou de genre. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Alain Kiefer.
Selon les sages de la rue Cambon, ces inégalités s'expliquent aussi par la réforme des rythmes scolaires avec la mise en place de la semaine de 4 jours dans le premier degré en 2014, Hakim.
Oui, actuellement Aurélie, 85% des écoles appliquent la semaine de 4 jours. En effet, depuis 2017, un décret autorise les dérogations pour les communes qui souhaitent repasser à la semaine de 4 jours et demi. Ce qui est le cas par exemple à Paris. Ce que préconise également la Cour des comptes, qui s'appuie là sur un rapport de l'Académie de médecine qui date de 2010 et qui estime que l'aménagement du temps scolaire en France n'est pas en cohérence avec les connaissances chronobiologiques de l'enfant. Une étude trop ancienne pour Guylaine David, la secrétaire générale du SNUIPP, qui rappelle qu'aujourd'hui, on ne dispose pas non plus d'un véritable bilan scientifique sur la réforme de la semaine de 4 jours.
Factuellement, on n'a pas d'éléments qui permettent de le dire. Parce que la réforme des rythmes scolaires, elle s'est heurtée aussi au rythme des parents. Et qu'on ne peut pas parler réforme des rythmes scolaires au rythme des élèves si on ne parle pas du rythme de la société. Et un enfant qui arrive à l'école à 7h30 le matin et qui en repart à 18h30 ou à 19h, il est dans une organisation collective et il va forcément être plus fatigué. Et donc, il ne faut pas voir que la question de la répartition des apprentissages sur la journée.
En attendant, la question des rythmes scolaires risque encore de faire parler prochainement, puisque Emmanuel Macron a annoncé début mai une convention citoyenne sur le temps de l'enfant qui débutera le 20 juin.
Hakim Kasmi, comme tous les soirs, nous retournons à Cannes pour suivre le festival avec Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Aurélie.
Le palmarès de cette 78e édition sera connu samedi, mais ce soir, vous allez nous dévoiler un possible lauréat. Bon alors, pour ménager un peu le suspense, commençons par quelques mots sur une ex-Palme d'Or.
Oui, c'était il y a 4 ans, la Palme d'Or surprise qu'elle avait obtenue des mains de Spike Lee avec ce qui n'était que son deuxième long métrage avait alors permis à Juliette Ducournau d'imposer un peu partout son impérium sur l'auteurisme de genre. Son retour en compétition avait donc hier soir les allures d'un très attendu crash test. La vérité nous oblige à dire qu'on était déjà très dubitatif devant Titane, mais la désintégration totale d'Alpha, son nouveau film, a confirmé notre sentiment. Quand elle ne copie pas ses maîtres en body horror, Juliette Ducournau n'a pas grand chose à dire et est bien en peine de le filmer. Son évocation des premières années sida par une maladie qui pétrifie ses victimes a laissé la plupart des spectateurs de marbre. D'autant que comme rien ne fonctionne, ni en mise en scène, ni en termes de jeu, la réalisatrice en est réduite à recourir à une bande-son tonitruante. Beaucoup de bruit pour rien. Pour ce film plus bêta qu'alpha, un véritable accident industriel.
D'un accident à l'autre, c'est peut-être bien la Palme d'Or de cette année que vous avez vue cet après-midi, Antoine ?
Oui, ça s'appelle Un simple accident. C'est un film d'un courage inouï et d'une grande finesse politique et morale. Courage parce que malgré l'interdiction de tourner, malgré 200 jours passés en prison il y a 2 ans, Jafar Panahi, qui aurait pu s'exiler à l'étranger, continue inlassablement à rester en Iran pour pouvoir raconter ce qui s'y passe. Courage encore parce qu'il fait précisément de son expérience des geôles du régime le ressort de son nouveau film tourné clandestinement, au synopsis resté secret jusqu'à sa projection cet après-midi. Dans Un simple accident, d'anciens détenus, hommes et femmes, se retrouvent confrontés à celui en qui ils croient reconnaître leur ancien tortionnaire sans en être certains. La finesse de Panahi est de dialectiser les diverses réactions de ses protagonistes, qui sont un peu tous les reflets sans doute de ses sentiments complexes, mais aussi de montrer comment l'inhumanité du totalitarisme peut contaminer jusqu'à ses victimes, tout en filmant en arrière-plan une société qui se libère des interdits, notamment vestimentaires. On sait Juliette Binoche, sensible au mouvement Femme, Vie, Liberté, et d'aucuns voient déjà Jafar Panahi repartir de Cannes avec une très méritée Palme d'Or.
Merci Antoine. On vous retrouve bien sûr demain dans le journal de 18h. Il fera généralement gris demain et les pluies qui arriveront par les côtes de la Manche en matinée se décaleront vers l'est l'après-midi. Les températures, généralement 8 à 12 degrés le matin, 16 à 24 l'après-midi.